Bonjour tout le monde. J'ai organisé cet après-midi de la façon suivante. J'avais prévu une petite biographie de Peter Jutwesch, mais je pense qu'il vaut mieux commencer à parler de ses pièces d'abord. Alors, j'ai choisi Cosmos, Mese in sette, Galante, et puis un petit peu l'opéra, parce que ça nous amène vers le travail de lundi où je vais parler d'électrochronique, d'intervalle intérieur, de Steiner et de Zero Points. Cosmos, c'est la première pièce, vous l'avez entendu, magnifiquement jouée par Pierre-Laurent Aymard, donc vous vous en souvenez, je pense. Et puis, aujourd'hui, finalement, le sujet général, ce sera texte et musique. Cosmos, d'ailleurs, a un aspect narratif, visuel aussi, c'est pour ça que je commence par là. Mese, c'est aussi une pièce assez ancienne qui est pour bande. Insecti Galanti, c'est la liaison entre texte et musique. Et donc, ça nous amènera aux pièces suivantes. À lundi, on parlera de l'orchestre et des instruments. Alors, tout d'abord, Cosmos. Nous allons donc survoler la Terre. Et j'aimerais tout d'abord vous donner un exemple musical en guise d'introduction à la pièce. C'est une partie du tout début de Cosmos.
Nothing to do with text. Probably he learned it meanwhile. Okay, so we go ahead. Das ist 16.
Peter Jutwesch a ajouté beaucoup de textes dans sa partition, alors que les commentaires de Satie donnent une perspective et une profondeur en modifiant le contexte de la musique. Les textes de Jutwesch ne font qu'accompagner minute par minute l'image de la composition. Le programme est tout à fait succinct. Il y a des scènes, des visions, des phénomènes liés à la musique, que la musique raconte ou qui et qui il donne des termes qui concernent la création de l'univers. Tout d'abord, il y a le Big Bang, et cela jusqu'à la dernière phrase qui dit « Nous survolons la Terre ». À la mesure 154, c'est-à-dire 15 mesures avant la fin.
Pay attention. This is page 11 in this.
C'est la page 11 de la partition. Cette phrase est la seule où il utilise un pronom personnel et qui soit complète du point de vue syntaxique. Avant cela, il y a une référence à une mesure 93, une interruption très importante de la séquence formelle qui donne une information sur le vol. Un navire spatial qui plane entre systèmes solaires. Vers la fin de la pièce, il y a « Nous revenons dans le cosmos après avoir survolé la Terre » et la dernière note est entendue un quart de seconde avant le nouveau Big Bang qui est exprimé par un long point d'orgue sur la dernière mesure qui est complètement vide. Yotvesha a composé « Cosmos » en 1961. La course entre les Soviétiques et les Américains pour l'espace avait commencé 4 ans avant. Mais Cosmos a été créé, et d'ailleurs écrit en 3 jours seulement. Il a été créé un peu plus d'un mois avant le vol de Yuri Gagarin en avril 61. Le monde des images de Tvush décrit tout un ensemble de pouvoir entre l'objectivité grandiose des phénomènes astronomiques, par exemple, l'axe de l'univers qui est en oscillation constante, et l'intimité de ce dernier nous qui est tout à fait inattendu. Nous survolons la Terre. Le navire spatial passe dans l'orbite de la Terre une seule fois, très brièvement. En rentrant dans le cosmos, il symbolise en fait ce rêve qui est de surmonter toutes les limites. La même année, 6 mois après le nouveau Big Bang de Tvush, dans le silence de ce long point d'orgue final, le mur de Berlin a été construit. C'était la frontière, la limite en soi. Tvush vivait encore à Budapest, mais 4 ans plus tard, il est allé à Cologne pour travailler avec Stockhausen. La puissance d'image de « nous volons, nous survolons » est encore plus forte que l'énumération des phénomènes astronomiques, qui sont presque lexicaux. On parle de comètes, astéroïdes, étoiles fixes. La même mesure 154 contient aussi une référence à quelqu'un qui participe à ce vol dans l'espace. Bartok, son nom figure entre parenthèses en haut du système du milieu. Alors ici, on voit les mesures 154-155. C'est une sorte, cette phrase complète sur le vol et se combine avec une figure de Quintolet parfaitement symétrique. La figure qui monte et qui descend autour d'un la bémol central qui ressemble beaucoup à une aile ou plutôt qu'à un Spoutnik. Il contient 3 tons. 3 sons en répétition et termine la mesure 155.
It presents black keys. It presents the only conventional.
Cela nous donne la seule forme mélodique classique, disons, de toute l'œuvre. Les 3 touches noires figurent précisément au point central de la figure. C'est une sorte d'impulsion qui vient des 4 touches blanches, Fa, Sol, La et Si. Avec le son pivot Mi, il y a 2 idées tonales distinctes qui se font face. Les 2 systèmes extérieurs progressent par ton entier, mais à une distance d'un demi-ton. Le Mi plane au-dessus de cette polarité. C'est la note la plus haute et elle appartient aux 2 groupes en tant que pivot de ce système tonal central. Entre la note sur touche blanche inférieure et la plus haute, on a un ton entier vers le sol bémol. Le modèle de cette référence, c'est Bartok, qu'on trouve vers le milieu de la pièce Klang der Nacht. C'est la 4e pièce du cycle Im Freien, que Bartok avait écrite en 1926. Can you change it?
Music example.
Alors cet exemple
vous
montre la première intervention du motif. Dans la pièce de Bartok, contrairement à celle de Utvösh, elle devient la base de toute une série de variations. Utvösh, lui, ralentit la figure et avec un intervalle à la quinte, il y a un sol répété qui crée cette sorte de symétrie. Ce n'est pas l'accord d'accompagnement où Bartok utilise un accord mineur parfait, mais plutôt la figure qui se trouve tout en bas qui montre que le cluster de Utvösh, Fa, Sol, La, Si, est une transformation directe du modèle de Bartok. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Ce même genre de bitonalité qu'on trouve dans la citation de Bartok crée la phase du navire spatial qui plane.
This is now in page 6 of the score.
Alors, exemple à la page 6 de la partition.
On supprime la musique 2. Non, on supprime, on n'a pas le temps. Here we can see the complete series.
Ici, vous voyez toute la série jouée sur les touches blanches et les touches noires, l'une au-dessus de l'autre, et cela dans la forme la plus simple. La montée et la descente linéaire figurent trois fois dans trois variantes, et cela représente l'image de ce navire spatial. Cette impression de flottement qu'on obtient à partir de ces deux séries n'est pas due simplement à la combinaison de deux systèmes tonaux, c'est dû aussi au fait que les deux séries sont jouées en parallèle mais sans coïncidence rythmique. Sur les touches noires, il faut 5 notes. Sur les touches blanches, il en faut 7 pour faire l'octave entière. Les structures sonores qui naissent de cela construisent une sorte de série d'intervalles qui augmentent systématiquement à partir des secondes mineures vers les secondes majeures, tierces mineures et majeures, tritons, quintes justes et enfin la septième majeure. Cette augmentation se fait automatiquement mais par progression irrégulière. 3 secondes mineures avant 1 seconde majeure, puis 2 mineures et 2 tierces mineures et 2 majeures, 2 tritons, 1 quinte et 2 sixtes. Un élément de grand raffinement dans la composition est dû à ce rythme harmonique très souple qui va avec un rallentando qui se déploie avec le mouvement descendant et puis un accelerando qui correspond avec le mouvement ascendant. C'est comme si dans le registre grave on avait le ralentissement et les grands intervalles harmoniques qui simulaient un atterrissage, ou pour ne pas aller trop loin, on a la fréquence plus rapide des notes aiguës que l'on pouvait associer à un mouvement rythmique plus rapide. Cette cohérence dans la composition n'a d'égal que la simplicité du point de départ. Mais l'élaboration de cela est extrêmement complexe. Il y a une partie où le pianiste doit jouer un rapport de 10 contre 8 contre 4 contre 3 avec un nombre impair de notes dans la deuxième phase. Dans les deuxième et troisième variantes de la figure, le compositeur utilise un processus qui crée des variations rythmiques et il applique le même geste à une sorte d'expansion. Bien que la deuxième variante laisse tomber les notes La et Mi bémol, elle commence plus haut sur le Si bémol et le Sol, et puis monte jusqu'au Ré bémol et Ré. La durée de ces trois variantes passe de 11 croches à une triple, puis 16 croches, une triple, et enfin 20 croches et 3 doubles. La complexité de l'écriture rythmique est liée à un style musical étonnamment transparent, et cela forme l'arrière-fond pour toute une technique très libre de variation qui s'applique à la forme et au rythme. La musique se développe dans une sorte de champ de force complexe, avec des rapports rythmiques très précis, et la liberté d'un principe de technique de variation. Cela correspond directement à la simplicité du geste qui est à la base de ce fragment et qui, à son tour, est lié à une idée scénique très précise, c'est-à-dire le navire spatial planant. C'est ainsi que la partition présente à la fois un déterminisme et un indéterminisme en même temps. Le pianiste doit jouer des quintolets de triples, ensuite immédiatement cinq triples égales, et puis, avant de commencer la deuxième variation, un point d'orgue sur un silence. Cette façon extraordinairement méticuleuse d'écrire est encore plus frappante à cause de la générosité du geste musical. L'utilisation répétée du mot « planant » est caractéristique de la pièce. Dans l'introduction, Hurtwisch écrit « Lorsque deux pianos jouent la pièce, les deux pianistes doivent jouer la même pièce, mais avec un décalage de phase, et doivent jouer assez indépendants l'un de l'autre. Et grâce à ce décalage dans le temps, l'auditeur entre en apesanteur. » Bien que Bartok ne soit pas mentionné dans le passage sur le navire spatial, le côté direct et stylisé des ressources pianistiques, l'utiliser des variantes rythmiques, donne une claire référence à son style. La complexité des successions rythmiques montre en même temps une certaine distance par rapport au modèle.
Tu dois reculer seulement la machine, tout le truc. Grégory, can you hear me? C'est trop petit, il paraît.
Comment?
C'est trop petit, il faut peut-être reculer ce que tu avais dit, je sais. Better?
Okay. Mieux comme ça?
Better?
Yeah, yeah.
Okay. In measure 69.
Alors, à la mesure 69.
Good anymore, but you can see it. In measure 69, there is an explicit.
Il y a une citation explicite de Bartok dans un passage de 9 mesures qui s'intitule Interlude Klänge der Nacht, en regardant le ciel étoilé. Jusqu'ici, dans cette scène du vol au-dessus de la Terre à la mesure 154, on pouvait faire la différence entre deux domaines de tonalité dans les fragments dont on a parlé, parce que le groupe de trois sons sur les touches noires avait une forme mélodique, alors que le groupe de quatre sons sur les touches blanches formait un accord. Dans la scène du navire spatial, à partir de la mesure 93, les deux régions tonales semblaient être deux groupes parallèles et linéaires qui se croisaient. Je vais juste vous jouer un petit exemple musical.
Je donne la page. Hein? Je vous donne la page. C'est page 5. Et avec vert, j'ai
exprès pour ça. Excusez-moi, je vais aller l'annoncer.
Dans l'interlude qui commence à la mesure 69, le matériau est concentré et mêlé dans un espèce de complexe chromatique de 5 notes entre le fa et le la. Étant donné que les tons qui entrent successivement sont tenus, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi c'est une citation de Bartok? Parce que j'aimerais bien comprendre comment on voit en quelques mesures que c'est Bartok. Oui, écoutez, mon problème c'est que je suis allemande et j'ai beaucoup de mal de passer. Si vous voulez bien, on le fera après, hein. Après le cours, si vous voulez bien.
So I restart from the text.
Donc,
I just have said in the
donc je reprends.
Okay. Alors,
je reprends. Dans l'interlude qui commence à la mesure 69, tout le matériau forme un complexe de 5 sons entre fa et la. Étant donné que les notes entrent en succession mais sont tenues, cette figure prend un aspect à la fois mélodique et harmonique. Le fragment est un bon exemple d'une autre façon de travailler avec ce processus, c'est-à-dire qu'il montre comment des variantes peuvent être utilisées pour élargir la forme. Le silence avant la figure de la main droite passe de une croche à une croche plus une triple et ensuite à deux croches, alors que dans la deuxième variante, le retard est rattrapé par une accélération dans l'ensemble suivant des notes qui passe de triolet à des triples avec sol bémol. La troisième variante s'étend par est étendue d'une croche et à la fin elle est encore prolongée d'une croche. Cet interlude renverse en fait la perspective du thème. Au lieu de décrire un processus cosmique, on pourrait dire que la caméra est centrée directement sur celui qui regarde le ciel étoilé. Ceci amène une sorte d'alternance entre trois différentes perspectives dans la dramaturgie de l'œuvre. Il y a d'abord le côté objectif du phénomène cosmique, puis l'aspect subjectif de l'observateur, et enfin la perspective fantastique qui permet à l'observateur d'entrer dans un rêve dans le cosmos. Avec cet interlude, Oetwösch donne le signal des points de référence de l'œuvre. Son cosmos est en fait un palimpseste de la pièce de Bartok dont j'ai parlé tout à l'heure.
You see the example with the Bartok.
Je vais vous montrer l'exemple du Bartok et de l'interlude Klänge der Nacht.
Yeah. Yeah. Leave it as it is.
Laissons-le là, hein. Voilà. Alors, cet exemple de Bartok montre comment il travaille la première mesure de Klänge der Nacht. Même la notation en trois systèmes vient de Bartok. La comparaison montre que Oetwösch copie les hauteurs précisément, sauf pour certains changements énharmoniques. Quand Bartók écrit un fragment chromatique de 5 sons, de mi dièse à la sur deux systèmes, en fait, il suggère une forme en deux voix, mais qu'on n'entend pas forcément parce que les deux parties entrent en même temps. Hötvös simplifie ces couches et les illustre en faisant que la partie du système d'en bas commence avant le groupe de 4 sons. Le fait de marquer le nom de Bartók dans la partition ne fait pas que faire du cosmos un hommage par le compositeur de 17 ans, vous l'avez entendu, mais des références sont retravaillées dans la partition pour former une nouvelle œuvre, et qui a l'air presque d'être la recomposition d'une œuvre de Bartók. Cela montre le fait que Hötvös consciemment prend position et se place techniquement et stylistiquement en tant que compositeur. La plus grande part de l'œuvre traite justement de cette première perspective, c'est-à-dire la présentation des phénomènes cosmiques. Et ceci se fait en fragments brefs et autonomes. Et ceci nous amène directement au début de la pièce, c'est-à-dire au Big Bang.
No music, no. It's page 2 in the score.
C'est la page 2 de la partition.
The textual association can be transferred.
L'association textuelle passe dans la musique avec une clarté extraordinaire. Le Big dans le Big Bang est représenté par un accord de 4 notes avec un ambitus de 7 octaves plus une seconde mineure. Le Bang, lui, vient après un silence et c'est un bruit de pédale très fort avec Bang et écho, c'est ce que dit la partition. Le Bang, donc la 9e mineure, Si bémol Si, joue un rôle dans le choix du registre, parce que c'est un symbole tonal du grand intervalle qui dépasse, c'est-à-dire l'unité de l'octave. Si on considère ensemble les 4 sons, ça représente un fragment chromatique de 4 sons de sol dièse à si. Et le choix du registre, de nouveau, montre clairement une façon d'élargir le fragment chromatique. L'arabesque avant la troisième mesure utilise les 4 sons de l'accord initial en plus d'un fa, sol bémol et sol. Les notes fa et sol bémol représentent un ostinato qui doit signifier l'axe de l'univers qui oscille. Les notes ré, mi bémol et do dièse se joignent à ce fragment de 7 notes dans la partie qui s'intitule Galaxie. Il semble qu'il ne souhaite pas donner le total chromatique. Ici, les sons qui manquent, mi et do, n'apparaissent pour la première fois qu'aux mesures 13 et 16 et ne sont pas nécessairement liés du point de vue structurel. La figure en arabesque de la deuxième mesure représente la polarité tonale qui va structurer le mouvement planant du navire spatial et aussi la mélodie du vol au-dessus de la Terre. Il divise ici le total chromatique en touches noires et blanches. Cette polarité apparaît d'abord comme une progression par ton, et c'est pour cela que le groupe touche noire ne commence qu'avec 3 sons, pour éviter les tierces mineures, et le groupe touche blanche est formé de 4 sons pour éviter les demi-tons. Les six premières mesures présentent trois catégories de blocs de composition. D'abord, l'accord, dont les sons décrivent une sorte d'ouverture en éventail d'un fragment chromatique. Deuxièmement, les trilles en ostinato, dont la linéarité est soulignée par l'utilisation de demi-tons. Et troisièmement, les figures en arabesque, figures mélodiques, qui sont retrécies jusqu'à former une appoggiatura, et dont la structure par ton est en contraste avec les figures en tri. La forme naît de ces trois figures. L'axe de l'univers qui change constamment, c'est l'ostinato autour des notes fa sol bémol. Cela représente l'axe de construction de toute la pièce et de façon absolument succincte et logique, de même que le Big Bang en représente le début. La notation sur trois systèmes est due justement à la fonction structurelle de l'axe, c'est l'ostinato. Le système médian représente toujours les manifestations de cet axe. Ce n'est qu'une fois que la fonction centrale de l'ostinato est complètement renversée. Il s'agit des sept mesures du navire planant aux mesures de 93 à 99. La partie principale commence à la deuxième mesure et prend sa structure de cet axe en ostinato.
Next is page 10 in the score.
L'exemple suivant vient de la page 10 de la partition.
From measure 142 on,
à partir de la mesure 142, on va vers la fin. Et ceci est annoncé parfaitement clairement parce qu'un nouveau motif intervient. Le fa dièse représente la liaison avec l'axe principal. Le saut d'une septième, qui fonctionne comme signal rythmique, présente en même temps un contraste avec l'étroitesse de l'intervalle de l'axe. Et cela s'ajoute chromatiquement à l'ostinato original. On ajoute donc le mi. Les 27 mesures de la dernière partie montrent en fait une contraction de l'intervalle de cette figure signal. La diminution des intervalles, ou simplement la sixth minute, sont éliminées, fonctionne en parallèle avec l'accélération de la figure. De croche à double, triolet double, triple et tri, on va jusqu'au ton, au son tenu, une espèce d'unisson, c'est le mi. Ce son stationnaire prépare en fait le geste définitif, c'est-à-dire cette impulsion abrupte sur le fa qui apparaît comme une triple isolée et qui brise cette utilisation insistante de la note pivot mi et crée une sorte de parenthèse pour par rapport à l'accord de la première mesure ou encore du nouveau Big Bang qui doit intervenir. Dans sa partition, Utvösh appelle ce processus final une concentration sur un point. La structure du dernier accord ferme aussi ce cercle formel. La neuvième mineure à la première mesure, si bémol, si, fonctionne comme une sorte de cadre. Il est ensuite retréci vers une seconde mineure, fa sol bémol, qui représente l'axe, et puis ça amène la fin de l'œuvre avec le mi-fa, c'est-à-dire la neuvième mineure des galaxies aux mesures 3 à 5, qui est citée pour la première fois en position fermée et qui est élargie grâce à la note si et devient donc une figure en trois notes. Les trois dernières, l'accord avec trois notes de l'œuvre, la dernière, à la mesure 168, on a les trois sons de la partie Galaxy. Avant cela, il y a une variante du même accord transposée vers le grave d'un demi-ton, et son entrée représente en fait la figure des mesures 3 à 5 en rétrograde. Alors que la progression de la note, des notes les plus aiguës de si bémol, non, de ré bémol ré, ces deux accords finaux de la main gauche forment une sorte d'écho du motif contracté de la mesure 168. Tout ce processus de contraction ou de concentration en un point qu'on a trouvé à la mesure 142 est annoncé par une partie en deux mesures qui commence à la mesure 140. L'exemple 5 montre comment l'intervalle structurel, 9e mineur, sous forme concentrée, semble résumer toute l'œuvre. Le si initial de la basse correspond à la basse du Big Bang de la mesure 1. La succession de 3 neuvièmes descendantes est organisée de façon qu'il se rencontre dans la neuvième ré do dièse des mesures 3 à 5. C'est donc une anticipation de l'accord final. La contraction s'oriente vers un unisson à la mesure 141. Le do dièse crée une connexion de presque de dominante vis-à-vis du premier son de la figure suivante, exactement comme à la mesure 6. L'exemple 5, en plus, montre que jusqu'ici, c'est-à-dire la fin de la forme principale, l'axe s'est agrandi pour former un accord de 12 sons à partir du tri ostinato fa sol bémol du système central en montant. La première expansion a eu lieu à la mesure 23, où on trouve les mots expansion constante. Avec le troisième sol, le tri devient un accord stationnaire. À partir de la mesure 41, ça devient un accord à 4 sons. À la mesure 53, il ajoute un la. Et ce groupe de 5 sons migre vers les deux systèmes extérieurs pendant l'interlude Bartok à partir de la mesure 69, ce qui pousse tout le texte vers une troisième position de Fa à La bémol. Le retour dans le cosmos, l'axe à partir de la mesure 78, est étendu pour former la somme de deux figures en miroir, Fa, Sol bémol, La bémol et Sol, La, Si bémol. À partir de la mesure 83, ça passe de 6 à 7 notes. On tourne autour du Do dans les mesures 80, à partir de la mesure 98. La levée de cette arabesque chromatique mène vers Ré bémol et la résolution du tri Ré bémol Do avec le Do définitif final de la mesure 92 est anticipé dans une figure de la main gauche qui est un La dièse Si Do. Une fois arrivé à la quinte juste avec Fa Sol à la mesure 93, l'insertion sans axe du thème du navire spatial planant entre. Ces mouvements en vague libèrent la musique pendant un instant de cet ostinato très serré. Avec l'accord à 8 sons qui va de Fa à Do, l'axe de l'univers qui change constamment reprend à la mesure 99 immédiatement après cette interruption. À partir de la mesure 107, il est étendu systématiquement, d'abord avec un ré bémol, puis à la mesure 114 avec un ré. Enfin, on arrive au total chromatique avec un mi bémol, mesure 118, et mi à la mesure 132.
And As was illustrated in example 5,
comme on l'a vu à l'exemple 5, mesure 140, une nouvelle variante semble exposer la fin de cette expansion constante. Entre les mesures 132 et 138, les sons de l'axe passent aux deux systèmes extérieurs pour la deuxième fois. Au lieu d'avoir des accords tenus, on entend un ostinato rythmique régulier avec des clusters qui sont arpégés et qui sont orientés vers l'intérieur. Une fois libéré de cette énergie motorique et une fois que l'expansion globale est terminée, la contraction vers le seul son do dièse intervient. Tant que l'ostinato de l'axe se développe, la partition exige un tempo de noir à 100. Ce tempo ne change que trois fois dans la partition. D'abord dans l'interlude à partir de la mesure 69, où la tonalité de la citation de Bartok reste dans l'ostinato, mais est transformée en événement actif. Le tempo à ce moment-là baisse jusqu'à 72 pour suivre le modèle. La deuxième fois, c'est dans le passage qui commence à la mesure 93 où le navire spatial flotte entre systèmes solaires. Là, le métronome est accéléré à 144. Ceci souligne la durée la plus longue d'une forme cohérente, c'est-à-dire le mouvement continu. Et enfin, le passage de la mesure 132 commence à un métronome de 132. Là, le tempo et la mesure coïncident, et ça n'est certainement pas un hasard. Donc, mesure 132, métronome 132. Là, le tempo ralentit, et la partition indique que chaque mesure doit être jouée au tempo plus lent qui est indiqué sur un métronome classique, ce qui fait que la contraction à partir de la mesure 140 termine la partie principale de la forme au tempo de 100. Pour trouver l'axe du centre de gravité, toutes sortes d'événements sonores ont lieu au cours du développement de la forme. Le pouvoir de stabilisation des sons tenus ajoute des gestes et des figures qui très souvent représentent un objet thématique tout à fait concret. Les astéroïdes, par exemple, à la mesure 40, sont décrites par un glissando lent de la main droite qui va de mi en descendant sur les touches blanches jusqu'au sol dièse. La construction de ces figures fait preuve de l'utilisation d'un système de composition tout à fait rigoureux. La symétrie en miroir entre les mains droite et gauche est quelque chose qu'on retrouve souvent dans le texte.
In measure 21,
à la mesure 21, la courbure de l'espace est décrite par deux neuvièmes mineurs, si bémol, do bémol, fa bémol, mi bémol, qui vont vers l'intérieur. Cela dit, l'ostinato fa sol bémol ne sert plus comme axe de miroir, mais comme do dièse virtuel. Le sens de ce son sol dièse, do dièse, pardon, a été souligné à la mesure 5 avec la note finale de galaxie. Sa signification structurelle a déjà été discutée quand j'ai parlé de l'accord final. On n'entend pas l'intervention dans la salle, il n'y a pas de micro.
Difficult to understand.
No, it's quite difficult for me. I really would like to know how. I really would like to know the
J'aimerais beaucoup comprendre
more precisely,
le lien avec les notes plus précisément. Peut-être que vous pourriez nous aider à comprendre en indiquant les notes dont vous parlez. Ce serait plus clair, parce que c'est assez complexe quand même. C'est un peu difficile de comprendre. Les choses vont trop vite et on n'arrive pas à s'y retrouver. C'est vraiment un peu difficile de retrouver tous les détails.
Sorry for this stuff.
Je suis désolée de vous interrompre comme ça, mais oui, non, j'avoue que je ne savais pas que vous aviez la partition. Moi, j'avais écrit ce texte pour qu'on puisse suivre sur la partition. Oui, bien sûr, si on avait tous la partition, ce serait plus simple. Mais comme ça, c'est vraiment un peu difficile de comprendre. Bon, écoutez, j'ai encore deux pages. Laissez-moi terminer. Et puis, ce que je ferai, c'est que on prendra la partition, parce que pour moi aussi, c'est très difficile. Oui, je suis désolée de vous avoir interrompu, mais voilà. C'est vraiment un peu difficile pour nous de vraiment comprendre ce que vous dites. Bon, alors écoutez, je vais terminer.
Let me finish.
Je termine.
I just finish. And,
et puis. Écoutez, sans partition, c'est vraiment difficile. C'est difficile pour moi aussi. Alors, ce que je vous propose.
What I propose is,
c'est que laissons tomber, laissez-moi finir, et puis lundi, on essaiera d'en rediscuter avec des exemplaires de la partition. D'accord? Et ceux que ça intéresse, on peut se réunir ensemble et puis retravailler avec la partition. Oh oui, ça serait vraiment très gentil si vous pouviez aussi aller un petit peu plus lentement et on arriverait mieux à comprendre.
I'm just passing on a request from this woman in front of me. She'd like to hear the music.
La personne qui est devant moi aimerait aussi entendre la musique. Bon, alors je vous fais une autre proposition. Je termine, on écoute la pièce, et puis lundi, on essaye de se réunir avec des exemplaires de la partition. Est-ce que peut-être... Vous pourriez jouer la partie. Oui, mais écoutez, j'aimerais bien terminer d'abord, si vous voulez bien. Laissez-moi finir, et puis après, on verra comment on peut s'organiser pour lundi. Non, vous ne voulez pas que je termine? Oui? Si? Bon. Ou alors, je peux m'arrêter, si vous voulez, et puis on revient lundi. Je peux très bien m'arrêter là.
Ok. Then we will organize how we can.
Bon, alors je finis et puis on organisera pour lundi. Alors.
The symmetrical figure in measure.
La figure symétrique de la mesure 108, qui est une variante étendue de la première figure, montre encore une fois qu'il ne s'agit pas d'un hasard. Avec les deux neuvièmes supplémentaires, Do bémol Do et Mi bémol Ré, le son virtuel central de Do dièse est en fait encerclé chromatiquement. Donc, la disposition des figures cosmiques est fondée sur toute une série d'éléments centraux tout à fait constructifs. D'abord, dans les deux exemples, et dans plein d'autres exemples aussi, la première note grave de l'œuvre, si, est citée en tant que basse transposée ou non. Ensuite, le do dièse a une fonction tonale explicite et structurelle. Troisièmement, ces exemples montrent que l'intervalle du neuvième mineur introduite par le Big Bang est utilisée de façon organisatrice pour la plupart des figures. Les structures des accords montrent aussi l'importance de la neuvième mineure. À partir de la mesure 29, les accords sont utilisés pour la première fois après des événements importants. Il représente les étoiles fixes. Deux accords de cinq sons qui sont empilés en tierces très étroites représentent la stabilité ou la fixité du phénomène. L'ambitus des deux mains est une neuvième mineure. Trois tierces mineures mène vers une tierce majeure à la mesure 29. L'axe en miroir des deux accords symétriques est encore une fois un do dièse virtuel. À la mesure 31, cette constellation est transposée vers le haut par d'une septième mineure et la mesure 34 introduit une troisième étoile fixe d'une carte plus bas. C'est ainsi que les sons en miroir sont structurés en cartes do dièse, si, fa dièse et la stabilité des étoiles est soulignée par chacun des événements transposés et sont lancés par un son isolé, un la. Ainsi, on peut en conclure que, étant donné sa disposition fonctionnelle, le concept de cosmos est fondé sur un petit nombre d'éléments fondamentaux. Des accords isolés, des figures en arabesque qui apparaissent de temps en temps, et un ostinato continu. Étant donné que l'utilisation de la neuvième mineure, les notes centrales si, do dièse pour les figures des systèmes extérieurs et la différenciation de la réserve chromatique de son dans une section de touches noires et de touches blanches, un dénominateur commun du point de vue de l'utilisation du matériau musical. Donc le développement de la forme libre représente une divergence de figures. La fonction unificatrice de l'ostinato en axe permet en même temps beaucoup de liberté dans la présentation des phénomènes cosmiques individuels. La polarité dont j'ai parlé entre le travail rythmique très méticuleux dans la partition écrite et la liberté dans la façon dont les gestes individuels sont structurés aboutit parfois à des situations assez paradoxales. Il faut se demander ce que signifie le tempo de 100 pour les mesures 2 à 5 dans un texte qui est en fait formé de tris, de points d'orgue et d'appoggiature, mais comme on l'a montré, ce qui intéressait le compositeur, c'était l'introduction de cet axe constant après le Big Bang en utilisant un seul tempo. Les progressions intervalliques systématiques et symétriques et l'utilisation de cette technique de variation fondée sur l'expansion de la forme fait qu'on a des allusions parfaitement claires aux passagers imaginaires de ce navire spatial imaginaire, et c'est Bartok. Avec ce refus de travailler mélodiquement, il y a aussi une application stylisée et concentrée de la forme qu'utilisait son modèle. Autour de l'axe de l'univers, il y a des micro-événements musicaux qui ont lieu, et malgré sa structure cohérente, Cosmos est en fait la somme de miniatures très raffinées. Sa préférence pour les triple croches est un symbole visuel de sa tendance à former des structures très complexes et détaillées. Le renversement de la perspective de Bartok, qui passe du microcosmos au macrocosmos, ne cache pas le fait que Cosmos est une œuvre extrêmement ascétique. Elle a une structure compositionnelle extrêmement claire. Il n'y a pas de fantaisie expressionniste, de lyrisme, et la précision minutieuse du scénario souligne ce fait. Pour conclure, je voudrais faire une dernière citation du compositeur qui est tirée du portrait que vous avez vu l'autre jour. Elle exprime tout ce qui a été décrit avec tant de détails techniques dans les paroles même de Tvoch. Je cite, « J'ai composé Cosmos en 61 au moment de du premier vol de Yuri Gagarin. Et le cosmos autour de moi, ce monde nouveau qui s'ouvrait, montrait montré qu'il était possible de regarder le cosmos à partir de la Terre comme si on regardait à travers une fenêtre ouverte. Tout cela m'a beaucoup enthousiasmé. Quand j'avais 17 ans, j'ai assisté à une conférence sur le Big Bang et j'ai découvert que cette première explosion avait commencé au tout début. L'univers n'est pas constant, il y a un flux constant. Il s'étend, il se contracte, il part d'une explosion avec une résonance infinie, l'axe de l'espace et du temps, un milliard d'années passent, les galaxies sont créées, puis quatre planètes, dans un spectre dont le centre a été déplacé. À une distance, deux étoiles apparaissent, la courbure du temps et de l'espace, l'univers s'étend, nous voyageons, nous rencontrons une comète. Tout s'élargit encore, l'univers devient plus petit, enfin disparaît, et nous arrivons au point où tout recommence.
Anybody who wants a score?
Vous voulez une partition? J'en ai une là.
So my proposal is on,
donc,
if you want,
si vous le souhaitez, ce que je vous propose, c'est de prendre des exemplaires de la partition et puis lundi de nous réunir et d'en discuter. Alors maintenant j'aimerais vous parler de quelque chose de complètement différent.
Which you rarely have the ability to hear and to see,
qu'on entend rarement, qu'on entend et qu'on voit, parce que ça n'est pas très souvent joué.
The score, which is,
je vais vous montrer la partition,
score, which is quite different.
Mais c'est quelque chose de complètement différent.
The piece is a radio play.
C'est une pièce pour la radio qui date de 67-68. C'est quand Peter était à Cologne. Ça a été écrit à un moment où Peter Utwisch était déjà en contact avec Stockhausen et il est dédié à Julika Stockhausen. Ça représente la fusion directe de sa propre culture et les nouvelles expériences qu'il faisait à ce moment-là. La présentation la plus directe d'une transformation d'un texte en musique. Et même aujourd'hui, c'est une pièce particulièrement poétique pour la radio. Cette pièce, je dois le dire, a été étonnamment souvent retransmis par la radio. Ce qui n'est pas le cas de la pièce dont on va parler lundi, Électrochronique. Avant de venir, on a essayé de voir combien de fois ces pièces avaient été jouées, et Mézé a été joué très très souvent.
Late in the night, but nevertheless.
Quelquefois tard la nuit, mais enfin quand même. Donc, la pièce est purement une composition de langue qui utilise un matériau musical formé de la voix d'une femme sur bande, la voix de d'un narrateur hongrois, Piroš
Kamolnár.
On a l'impression d'un instrument musical harmonique à des facettes multiples. L'enregistrement est formé de parties d'un conte de fées hongrois qui vient d'une collection de Gyulor Tutaj qui est formée d'à peu près 100 exemples. En plus, il y a une chanson folklorique et puis les voyelles et les consonnes, aussi bien qu'un cymbalum qui accompagne et qui est amplifié. Tous ceux qui ne connaissent pas le conte hongrois ne pourront pas profiter de la complexité de l'adaptation et de la transformation de la structure typique de conte de fées. Je cite donc Zoltán Farkas, qui connaît cette tradition très très bien, et ce qui lui permet d'expliquer comment fonctionne le modèle traditionnel. Et je cite, Utwisch renverse le processus du conte traditionnel. Les conteurs traditionnels construisent les personnages individuels dans les contes différents à partir de façons de parler bien connues, alors que Utwisch distille les éléments typiques du conte à partir des extraits de différents contes. Les détails sont groupés selon la dramaturgie du conte. La pièce commence par des idiomes en introduction, qui s'est suivi par la description de la scène et des personnages. Les numéros magiques indispensables dans les contes apparaissent aussi, et puis le conflit a lieu, c'est le contraste entre le bien et le mal. La tension est dissoute par certains éléments humoristiques. La partie finale est construite à partir d'idiomes prosaïques rythmiques qui sont très caractéristiques des contes hongrois.
The score,
je ne sais pas si vous voyez assez clairement là-haut, ça me paraît un peu pâle.
I see it well from here, but I don't know where.
Pas d'ici, mais je sais pas si vous le voyez du fond.
Can then come closer because I'm going to explain it. Okay, I go. I'll read it. We will understand it.
Bon, je vous l'explique et vous allez vite comprendre.
The recording was copied onto three tracks.
L'enregistrement a été copié sur trois pistes, 1, 2 et 3. Et les trois pistes contiennent le même matériau. Chaque piste contient des éléments formels différents. D'abord, il y a des parties en solo qui dominent, qui sont notées comme solo. Je ne sais pas si vous voyez, c'est écrit solo là-haut. On peut le lire, oui. Bon. Ensuite, des répétitions des mesures solistes qui sont notées par des boîtes vides. Et enfin, les mesures avec silence, et ce sont des boîtes hachurées.
Can you do the first part, music, track two?
Est-ce qu'on pourrait jouer une partie je vais vous jouer en fait le début de la pièce.
So from the general beginning on measure one.
Alors, à partir du début, à la première mesure, les différences du tempo augmentent en continu. La bande originale est accompagnée d'une autre bande qui est ralentie par un rapport de 4 contre 3. La troisième est accélérée jusqu'à un rapport de 4 contre 5. La seule différence entre ces pistes qui sont absolument identiques, c'est leur vitesse, pardon. La partie la plus aiguë à la vitesse la plus rapide, la partie la plus grave et la plus lente. Cette transposition des vitesses forme un canon où chaque partie commence en même temps. La partie la plus aiguë est terminée quand on arrive au milieu de la pièce et donc elle termine son deuxième passage à la fin. C'est pour ça qu'il y a échange des pistes entre celle qui est la plus lente, la troisième, qui arrive à la fin, à la moitié de la pièce. Toute la séquence est calculée avec précision, ce qui fait qu'à la fin de la pièce, toutes les trois parties ont terminé en même temps.
The polyphonic shift in the canon
le déplacement polyphonique du canon est donc non pas le résultat d'un déplacement dans les entrées des parties, mais simplement de vitesses différentes. Dans la première moitié, le rapport est de 3 contre 4 contre 5, et dans la deuxième moitié, de 5 contre 3 contre 3. 5 contre 4 contre 3, pardon. Le résultat est tout à fait étonnant. Là, vous voyez qu'ils terminent tous ensemble. Donc, l'importance de la langue, même si on ne comprend pas le hongrois, le processus acoustique est tellement dense que on a vraiment une situation poétique, scénique, lyrique, dramatique, et tout ça est compréhensible, même quand on ne parle pas la langue.
This track from the beginning. Okay.
This is
Hongbo.
You never get it again because it's original.
J'aimerais le récupérer parce que c'est l'original.
As you can see, they are written in the score.
Comme vous le voyez sur la partition,
the general characters
on voit
each part
à droite les personnages qui correspondent aux différentes mesures.
Elements,
enfin, les éléments caractéristiques du conte, si vous voulez.
Because it's very, yeah, it's only in German. From measure one
donc,
to five,
des mesures 1 à 5, c'est le début très coulant du conte de fées. De 6 à 16, ce sont les numéros typiques du conte. De 17 à 24, il y a un legato lyrique. De 25 à 32, une partie subjective et lyrique. De 33 à 40, un passage très rythmique et dansant. De 41 à 48, une partie très active, la lutte contre le dragon. Dans la deuxième partie, de 56 à 49, on a une chanson enfantine multipliée. 48 à 41, de nouveau la lutte contre le dragon. De 40 à 33, deux interruptions agressives et brèves. De 32 à 25, un legato lyrique, chant folklorique. De 18 à 15, un caractère lyrique en crescendo. De 14 à 12, un decrescendo rythmique. Et de 5 à 1, la fin du conte qui est très coulant aussi. Donc, il y a ce changement. C'est vraiment compté avec précision. On passe jusqu'au centre et puis le système se modifie, la vitesse la plus rapide devient la plus lente et de toute façon, on finit ensemble. Mais c'est vraiment un travail mathématique extraordinaire pour obtenir que la première bande soit copiée, puis mêlée avec les autres éléments, le cymbalum, les voix, et puis le tout est composé vraiment en canon, un canon formé de vitesses différentes et non pas d'entrées successives. Et ce qui est extraordinaire pour moi, c'est ce que dit Farkash. Moi, je ne comprends pas un mot de hongrois. Hein.
Mais
quand j'ai compris les éléments généraux des contes, et après tout, nous en avons tous des contes en français, en anglais, en allemand, une fois que j'ai pensé à ces éléments, le plus j'entends la pièce, le plus j'arrive à suivre, en fait. C'est vraiment très, très bizarre, mais c'est extraordinaire. On peut vraiment entendre la fin.
It is from...
Ça, c'est la deuxième partie.
Utvash
dit que dans cette pièce, il y a une trinité du pré-écho de la version vitesse normale et de l'écho. Et ici, la liaison avec les trois sœurs est tout à fait évidente. C'est le même principe qu'on utilise dans la conception dramaturgique des trois sœurs. Il y a les trois séquences. Mais ça, on y viendra après. Le pré-écho, c'est l'annonce. L'événement, c'est l'acte principal. L'écho, c'est la mémoire. Comme la façon dont entrent les parties dans cette pièce.
Y a-t-il une influence de Gesang der Jünglinge de Stockhausen?
Is this influenced at all by Gesang der Jünglinge?
I have not thought of that question.
J'avais jamais pensé à ça, j'avoue. Je lui en ai pas parlé non plus. Moi, j'ai pas l'impression.
I think it is from a very. It is really the Hungarian side.
Parce que c'est vraiment très hongrois.
It was in the year, it was just when he came.
C'est au moment où il est arrivé, en fait. Ça date de 68. Alors il venait d'arriver.
I think it has more to do.
Moi, je crois que c'est
experimenting electronically.
Davantage une question d'expérience électronique.
And on the other side,
et puis d'autre part. Ce lien avec sa propre culture. Je crois que c'est plutôt ça.
I think it was more than 10 years after Gesang der Jünglinge.
C'est plus de 10 ans après Gesang der Jünglinge. Oui, Gesang der Jünglinge, ça date de 56-57. 56, oui.
To be heard, by the way, in Budapest and there is the story of
et pour l'entendre à Budapest, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire de Ligeti. Dans le film, il expliquait que Stockhausen lui avait téléphoné en lui disant que ça allait être joué à la VDR et qu'il pourrait l'entendre à Budapest. Et c'était extraordinaire parce que jusque-là, on n'avait jamais pu écouter ça. Parce qu'on brouillait les stations allemandes. Donc, ils ne pouvaient pas l'entendre. Donc, c'était juste à ce moment-là que ça pouvait passer et Ligeti a pu entendre le Gesang der Jünglinge un soir grâce à cette émission de la radio allemande. Oui, ça c'est 10 ans plus tard. Mais si on pense à cette époque et à ce que faisait Eötvös à Budapest, j'ai sauté la biographie parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Mais à l'époque, à Budapest, il dirigeait, il écrivait, il faisait de la musique pour le théâtre, pour le film, il étudiait, il composait, il travaillait à l'Académie de la musique, à l'Académie des arts, et je crois qu'il travaillait davantage sur la musique de film du point de vue électronique. Il ne composait pas avec la musique électronique à l'époque. Il y avait tout ce monde de travail. Mais enfin, on lui demandera. Je ne lui ai jamais demandé jusque-là. Ici, il note des mesures, mesure 1 à 5, etc. Est-ce que ça signifie
as a pulsation, these characters.
Que ces mesures représentent une sorte de pulsion. Oui, je crois, c'est divisé dans ces trois éléments, le solo, le silence.
Solo parts, repetitions and measures with rest.
Et les, voyez,
this is a measure, et this is just the block. Yeah.
It seems to me more as
mais
as
moi
a piece
j'avais
of
l'impression
so in the studio, yes. There's a command used to notate. So,
vous savez, en studio, puisque c'est une pièce pour bande, on note en général la première partie, la deuxième partie.
Yeah.
And then it is,
oui, c'est une bande, mais une bande qui est coupée, si vous voulez. Le premier élément, par exemple, les silences, c'est on coupe et il y a une
classique way of measures, but it's a sort of
ne sont pas des mesures au sens classique, mais des sortes d'impulsions, effectivement. Ça commence et puis ça s'arrête. Et les entrées et les arrêts ont lieu à des vitesses différentes. Mais si vous regardez bien la partition, c'est la même chose. On voit que ça s'élargit, que la différence de vitesse s'agrandit.
Yeah, here it's not so good to see, but in the beginning.
Pas clair sur l'écran.
You can take the other folio, the first one. You can see it exactly.
Mais sur le transparent du début de la pièce, c'est plus clair.
Take the other one. It's easier to see. Yeah, genau. No, this is. Pay attention not to mix the one thing with the other. But, you know, it's a different mess. Okay.
This is the second part.
Yeah, genau. No, this is a good one here.
That's what you know.
Yeah, we haven't had that. It's a little big.
C'est un petit peu plus clair là, non?
Down, bit more down.
Faut descendre un peu, voilà.
If you can see it better.
Alors là, on voit mieux.
And the difference.
Les différentes entrées.
Copy because it's a large.
Enfin, l'entrée et puis les différentes vitesses plutôt.
But he will be back on Monday. We can ask him.
De toute façon, il revient lundi. On lui posera la question. J'aimerais bien récupérer les partitions parce que ce sont les partitions de la VDR. Et je ne suis pas censé les perdre.
Have you got the score of Insetti Galanti?
Est-ce que vous avez la partition d'Insetti Galanti? Non?
Well, let's try.
Bon, mais on va essayer.
I think it's probably less complicated.
C'est moins compliqué de toute façon.
I have to admit I have a written text.
Alors,
and we can try if
j'ai un
this is possible
texte
or not.
Écrit, on va voir comment ça marche.
No, not yet. Yes. Next one, I'm going to tell you. Example one completed. This work in
cette pièce a été composée en 1970. Ça faisait partie d'un groupe de trois madrigales comédiennes pour chœur de chambre de 12 voix. Vous en avez vu un peu d'ailleurs dans le film de l'autre soir, avec Utvush lui-même qui dirigeait. Est-ce que vous avez vu le film l'autre soir ou pas? Ou vous étiez tous en répétition? Oui.
Bon.
Donc, 9 ans après Cosmos, l'influence de Bartok se fait encore sentir, mais uniquement au niveau de la conception. À propos de Klinger der Nacht, qui était le modèle de Cosmos, le fils de Bartok, Béla, a dit que le compositeur y avait transformé les sons d'un concert nocturne de grenouilles. Cette œuvre de Utvush représente de façon plus naturaliste le son d'insectes. Pour souligner les parallèles de conception, j'ajoute que dans Microcosmos, il y a une pièce qui s'appelle Du journal d'une mouche. Et une autre pièce de Utvush concerne aussi les insectes. Ça s'appelle Cricket Music et ça introduit les sons enregistrés de cricket, qui, avec des manipulations, enfin transformations électroniques. L'œuvre est dédiée au groupe vocal de France et doit être chanté par trois groupes de sopranes et ténors qui sont à l'avant de la scène, deux groupes de trois chanteurs à l'arrière, une basse, un mezzo et une autre basse, et l'autre groupe mezzo, basse et alto. Donc, l'ensemble vocal est formé de trois sopranes, trois ténors, trois basses, une seule alto et deux mezzo.
But this disposition
mais
is not too relevant
ceci n'est pas tellement important du point de vue classique du son choral. En fait, le compositeur précise que les chanteurs ne doivent jamais utiliser une voix normale, mais aller entre un mezza voce et un chuchotement. La partition n'utilise pas non plus les systèmes de portée conventionnels.
It's a pity we cannot see the whole score because it's
on peut pas voir toute la partition.
Yeah, can you see on the wall?
Vous okay. Voyez ah ben vous voyez sur le mur. Bon.
Oh, yeah. Yeah, okay. More. Yeah, okay.
Voilà.
Correspondingly, the score
bon, donc, comme je le disais, oui, bon, il y a en fait trois lignes qui indiquent ce qui signifie des régions de hauteur aiguë, médium et gras. Évidemment, il n'y a pas d'altération non plus. Mais en écrivant les notes en haut de la portée, quelquefois au milieu, le compositeur indique très précisément ce qu'il veut.
The pitches,
les hauteurs
generally are matter of fixed and
sont
fine composition.
En général fixes et bien définies. Il y a juste quelques exemples de hauteurs vraiment précises sur 5 lignes. Il faut remarquer aussi que les sons peuvent être notés avec des hampes conventionnelles qui indiquent un mezza voce, même quand il y a forte, et des notes avec un X sur la note. Enfin, à la place de la note, comme on l'utilise par exemple dans les partitions de percussion, ce qui indique un chuchotement avec une certaine expression vocale. Le titre fait référence au 6e livre de Madrigaux de Gesualdo. Utvush esquisse l'atmosphère et il dit « Une nuit d'été, les moustiques et les mythes sont partout et chantent un amour ardent de façon tout à fait extravagante et maniérée jusqu'au moment où elles sont consumées dans les flammes de leur propre amour. » Puis suit une citation de la poésie de Gesualdo, mais je n'en lirai que la moitié. « Moustique plein d'ardeur qui pique celle qui consume et retient mon cœur avec tant de douleur. » Puis il s'envole et il revient en voletant vers ce beau sein qui a enchaîné mon cœur. Elle l'attrape, l'écrase, le fait mourir, et il est heureux. Moi aussi, je vous mordrai, mon amour, et si vous m'attrapez et que vous m'écrasez, je m'évanouirai en goûtant le venin, le doux venin de ce beau sein. Pour être précis, Eötvös n'a que des références assez vagues à ce modèle, mais il utilise aussi des petits morceaux d'autres poèmes de Gesualdo. La première entrée introduit la géographie des cinq groupes sur scène en leur donnant à chacun une entrée brève.
Je
ne sais pas si vous voyez tout en haut.
The two front groups.
Les deux groupes qui sont à l'avant de la scène sont en vert là-haut.
The two front groups, tenor one,
c'est donc ténor 1, soprano 1 et soprano 2 et ténor 2 sont suivis par le premier groupe à l'arrière, basse 1, mezzo 1, basse 2. Puis le troisième groupe à l'avant et enfin le deuxième groupe à l'arrière. Il n'est pas question de déclamer au sens classique, il n'est pas question de faire comprendre un texte. Plutôt, nous sommes revenus aux techniques de la Renaissance où on surimpose plusieurs couches de texte. La fragmentation du poème se réfère d'ailleurs à des procédures contemporaines du passage du sens vers le son. Donc, l'unique mot chiaro
of soprano one,
prononcé par le soprano 1 se trouve quelque part vers le milieu du deuxième couplet de Gesualdo. Les paroles des parties autour, più tu, ténor 1, et ardo per te, ne sont pas liées à leurs phrases respectives ni au poème qui est cité. Le scénario général suggère qu'il y a un développement tout à fait dramatique qui part du portrait de la nuit d'été avec les chants d'amour et puis finalement la consommation dans les flammes de l'amour. Cela dit, la forme et la progression de la musique de Inzete Galante ne montrent pas une intention du compositeur de traduire une structure narrative dans sa pièce. Ça signifie que la pièce utilise des fragments éparpillés d'un poème ou de plusieurs poèmes qui traite de façon allégorique d'insectes et de passions. Mais ça n'a rien à voir avec une expression textuelle claire, mais plutôt, comme nous allons le voir, avec une indication acoustique du vol d'insectes. Dans la partition, il montre que les syllabes soulignées, comme on les voit à l'exemple 1, doivent être prononcées clairement en maintenant l'appui sur les dernières consonnes. Donc il indique bien comment il faut prononcer, comment il faut chanter. Le résultat général de l'interprétation doit donner un style, comme le dit le compositeur dans son mélange de sérieux et d'amusement, un style à moitié, vraiment à mi-chemin entre la Commedia dell'arte et Walt Disney. Au début, comme on le voit au premier exemple, donne l'impression des caractéristiques techniques de l'œuvre. Les chanteurs qui utilisent leur voix donnent une sorte de récitatif. Les mots « ardo per te » et « mio bene » deviennent un petit duo suivi à la troisième mesure par « ardo per te » et « ancor io ». La ligne vocale est tout à fait séparée de la déclamation des paroles italiennes, mais plutôt centrée sur un dessin exagéré de la forme de la phrase. Donc toutes les dernières syllabes sont accentué de façon parfaitement grotesque par la hauteur, le rythme, la durée et l'importance. Mais la deuxième version de Ardo per te est très évidemment une imitation de la première. Si le fait que le compositeur mentionne Disney, il se réfère sans doute à ce qu'on appelle le genre Mickey. Donc ces premières mesures nous suggèrent déjà ce qui se passe. Dans toute la pièce, les parties déclamées utiliseront des portamento di glissando. Et les voix aiguës, très rapides, crient et hurlent. Les indications d'interprétation qui reviennent le plus souvent dans la pièce exigent ce que n'exprime pas clairement l'indication de hauteur. Des hauteurs aiguës, bouche fermée, aigu et doux, ou bien chanté aigu, ou bien falsetto aigu, ou encore très aigu, très vague, comique, rapide. La dernière indication pourrait presque être la description d'une bande sonore d'un dessin animé de Disney. Les parties chuchotées ont une fonction différente. Elles sont strictement rythmiques. Mille fiamme crée une sorte d'arrière-fond rythmique. Les chuchoteurs forment, si on veut, la section rythmique de la pièce. Il y a donc aussi un accompagnement harmonique, c'est-à-dire qu'il y a en même temps des sifflets et des chants bouche fermée qui introduisent le monde acoustique des moustiques et d'autres insectes volants. Un mezzo doit ensuite faire un glissando montant sur le son B, et l'instruction dit nasal. Et le résultat sonore est aussi lié aux insectes ou encore aux dessins animés. L'organisation des 12 chanteurs en 3 duos et 2 trios est utilisée de façon spatiale et fonctionnelle dans l'exemple 1. Parfois, il est assez intéressant de voir comment le compositeur crée des effets presque stéréo en organisant l'entrée des différents groupes.
This is page 19.
Ça, c'est la page 39 de la partition.
In the case of
dans cet exemple-ci, la forme de la partition montre la forme symétrique d'une flèche qui va vers la gauche. Selon la façon dont les chanteurs sont groupés, l'ouverture de cette texture n'a rien à faire avec l'élargissement du registre sonore. Mais puisque le premier groupe, soprano 2 et ténor 2, sont en vert là, sont placés au centre de la scène, et puisque toutes les entrées suivantes passent vers les chanteurs des deux côtés de la scène jusqu'à atteindre le ténor 1 et le soprano 3, qui sont placés au bord de la scène, l'effet spatial de la performance fonctionne très bien avec l'allure même de la partition. C'est comme si l'auditeur était placé au milieu de la feuille, ou à droite, sur la marge droite. Cet exemple montre que l'organisation assez peu habituelle des parties dans la partition est tout à fait logique si on considère l'identité entre l'espace sur la scène et le dessin de la partition. Après le début de la pièce, le son est organisé de façon différente, à la page 7. Deux groupes de sons dialoguent, le ténor 1 et le soprano 1, qui font des glissandis vers le bas. Le ténor 2 et le soprano 2 font des glissandis qui montent et qui descendent. Les deux sous-groupes, basse 1, mezzo 1, basse 2, et mezzo 2, basse 3, alto, imitent vaguement leur motif en deux syllabes. Encore une fois, l'accompagnement de la scène est une sorte de mélange de sons, de sifflements, de bouche fermée, et par le ténor 3 et le soprano 3. Les mêmes alternances se retrouvent plus loin à la page 14 sur le mot zanzaretta d'une part et ardita pour l'autre.
16. And can you back go? Can you go back on to 16? Okay. Again. The fragment to see in the example is performed in metronome 120 for the fourth.
Et chanté à un métronome 120. Le tempo rapide est un autre élément de ce qu'on a appelé genre Mickey. Mais les choses vont encore s'accélérer.
On page 10,
à la page 10.
Make you work with it. On page 10, the 16s and quintuplets.
Les double croches et les quintolets.
The 16s and the quintuplets are not any
ne sont plus liés à la poésie de Gesualdo, mais avec des onomatopées peut-être hollywoodiennes.
Po,
titato et dolololo.
The slowing down and speeding
le ralentissement et l'accélération des dololo coïncident avec la forme du grand glissando sur Suwa. Ce champ de son très souple forme l'arrière-fond du duo de ténor 2 et mezzo 2 sur Mio Bene. La musique développe alors les éléments qui ont été introduits et répète le même passage à la page 13.
Can you do Museum 16? We might have emphasized the Disneyan aspect of the score.
On a insisté peut-être un peu trop sur l'aspect Disney de la partition, mais il y a un interlude qui très clairement n'a rien à voir avec Mickey, mais plutôt au maniérisme des madrigalistes tardifs.
Example 5.
Cet exemple, qui correspond à la page 29, montre la fin d'une section qui est centrée de plus en plus sur le son z. Cette imitation presque naturaliste du son des insectes correspond effectivement au travail du madrigal. En s'éloignant de tout son ou sens, c'est même une expression excessive des maniérismes des madrigaux, comme dans la partie de sifflement et bouche fermée. Le quatuor, qui sur le son z, est écrit sur des portées conventionnelles. C'est une exception à la règle de la partition et ça arrive juste au moment où les chanteurs interprètent une sorte de madrigal classique. Ce qui est amusant, c'est que la question des citations de style et poussé à l'extrême par l'utilisation d'une écriture tonale conventionnelle. Le chœur à quatre voix enchaîne les harmonies suivantes, sol majeur, si majeur, sol mineur, ré mineur dans la première mesure, la majeur et si majeur dans la deuxième mesure. La troisième mesure reproduit la première, mais transposée sur si majeur. Ceci comprend des manérismes très clichés, des progressions chromatiques, ré dièse, ré, sol dièse. Puis avec le ténor 1 et le soprano 1, il y a une déclamation tout à fait frénétique à la gauche de la scène, qui ressemble déjà à un vol de moustiques. Cet exemple montre que Hurtbusch n'avait pas du tout compté composer une musique triste.
356.
Alors, pour en revenir à la description de la pièce, la texture en dialogue se poursuit et est suivie aux pages 18 et 19 par un genre de son tout à fait nouveau. C'est à la page 19 de la partition.
Four performers now dedicate
quatre chanteurs
to low and soft
chantent à bouche fermée très doucement, selon l'indication de
Hurtbusch. The humming will thin out and vanish
ce son devient plus mince et disparaît à la page 24. En attendant, les quatre chanteurs, autres chanteurs, articulent des mots comme fiamma, ardente, ardore, de façon, dans une atmosphère pleine d'inquiétude, comme l'écrit Hurtbusch, l'expression de la crainte, de la peur, est montré par des changements constants entre le chuchotement et la voix et par l'utilisation de trémolo, comme sur le mot fiamme. Le premier groupe de notes aiguës explique le mot volan par une espèce de montée tout à fait vertigineuse et un glissando retombant avec une figure en quintolet, puis il y a une fragmentation extraordinaire de ce qu'il chante. Ces interjections extrêmement braves représentent un vrai défi pour la coordination rythmique entre les chanteurs. Hurtbusch utilise un haut degré de différenciation de gestalt. À un moment, les membres d'un groupe travaillent sur un mot, dolce, à la page 20, mais chacun avec une forme rythmique différente, en évitant l'unisson. À d'autres moments, ils sont simultanés, par exemple sur fiamma à la page 21. La déclamation de ces fragments de poèmes passe constamment donc d'un effet improvisé, d'une coordination tout à fait imparfaite et la clarté parfaite d'une prononciation simultanée. Grâce à cela, certains mots sont difficiles à saisir, d'autres sont soulignés et en relief.
At page 25,
à la page 25,
a new texture is
on entend une nouvelle texture. Maintenant, il devient évident que le chuchotement du mot « mille » avec un rythme pointé est un des leitmotifs de la pièce. Le duo central de soprano 2 et ténor 2 prend une sorte de ligne en récitatif alors que le reste de l'ensemble chante à bouche fermée dans l'aigu. Ça inclut des glissandis et bientôt il y a intensification de cet ensemble. Les glissandos de la page 27
are getting accelerated,
accélèrent, et on trouve l'indication dramatique.
Quand,
en arrivant au mot morte, le récitatif central devient rire. Le soprano 2 et le ténor 2 chantent en riant avec 7 impulsions par seconde. La situation dramatique est évidemment ironique et bientôt on arrive aux insectes qui chantent un madrigal dont j'ai parlé déjà à l'exemple 5.
The last new procedure occurs at page.
Dernière nouveauté intervient à la page 30. Avec l'accompagnement des rires du duo central, il y a deux quintettes des deux côtés de la scène qui improvisent selon les indications du chef. Vous voyez la main gauche et la main droite du chef, R et L, ça se voit là.
Both hands of the conductor.
Donc les deux mains du chef indiquent des hauteurs différentes. Les chanteurs suivent la main avec de légers glissando qui s'arrêtent toujours brièvement sur un tenuto. Ce son très doux et presque arythmique doit être dirigé non pas de façon planifiée, mais comme un enfant qui vole en étendant les bras et en soulignant chaque seconde. Pendant le reste de la pièce, qui forme à peu près un tiers de la durée totale, il n'y a pas de nouvelles procédures ou techniques ou combinaisons. D'une façon générale, le son commence à s'éloigner de l'imitation trop naturaliste des insectes. Il n'y a plus de fragments où on utilise le sifflement, la bouche fermée, les glissandis. Le compositeur est bien trop intelligent pour répéter des choses qui risquaient de devenir un cliché. Mais au contraire, il est centré maintenant sur les éléments d'un récitatif maniériste en utilisant le chuchotement et le chant et de temps en temps un glissando. La caractéristique technique principale après la section d'improvisation de la page 30, c'est l'utilisation de deux blocs sonores en dialogue. comme on l'a vu à la page 7. Grâce à un contraste fort avec l'organisation assez indéterminée de son grinçant de la dernière section de la page 37, il est dit « sempre secco » et extrêmement rythmique. L'importance est accordée à des chaînes motiviques de double croche régulière qui se promènent à travers les différentes parties. Plus tard, cette concentration motivique sera évidente dans l'organisation spatiale de la fin. Les dernières mesures articulent le mot « joy ». Et il est indiqué ici avec joie. Le travail traite de l'utilisation plastique de différentes techniques de chant entre son et bruit, en explorant les possibilités de son de l'ensemble, y compris l'utilisation de l'organisation des chanteurs sur scène. Le tout est extrêmement expérimental. Le résultat de la partition, cela dit, n'a rien d'expérimental. Au contraire, Utvush semble presque obsédé de la nécessité d'assurer l'équilibre entre liberté et contrôle. Son style de composition est centré essentiellement sur le contrôle précis du rythme, tout en laissant beaucoup de liberté en ce qui concerne les hauteurs. Mais ici encore, la profusion d'indications détaillées permettent d'éviter toute erreur. On ne risque pas de comprendre la partition comme une expérience arbitraire. Le compositeur est très lié à un travail contrôlé sur les détails. C'est peut-être pour ça que la musique n'est jamais bruiteuse. Le geste d'exploration et d'expérience est très courageux, mais le son de la musique de Utvush est en général très discrète et presque timide. Même avec des grandes œuvres comme Zero Points pour grand orchestre, il n'y a pas de gros éclats. L'expression aussi préfère communiquer une description plutôt qu'une exhibition émotive en musique. L'attitude de Utvush est quelque chose, est celle que je dirais d'un horloger de précision qui équilibre bien tous les petits éléments. Je crois que le mot juste, c'est concision.
You would like to hear the whole piece.
Vous voulez entendre la pièce en entier?
Would you?
Oui ou non?
Okay.
Bon.
Let's do it. How long is it?
Elle dure combien?
Huh?
On ne sait pas.
I don't remember. It's 7 minutes.
Bon, c'est 7 minutes.
Three. Four. No, I didn't bring it. You have no score.
J'ai pas de partition. Vous n'en avez pas non plus.
There. No. Thank you. Don't you? What I wanted to do next is,
alors, je voulais ensuite vous parler un peu de l'opéra en guise d'introduction. Et puis, je voulais vous montrer un extrait de la production de l'opéra à Lyon. Mais il nous faut peut-être 5 minutes pour arranger, pour organiser la machine, parce que j'utilise 3 exemples dans mon texte, 3 exemples d'une cassette que vous ne reverrez d'ailleurs plus jamais, parce que c'est l'enregistrement de la première à Lyon. Donc au lieu d'entendre le CD, j'ai préféré vous montrer quelques exemples de la première à Lyon. Et puis ensuite, je vous montrerai le film de Judith Kehle sur le travail sur l'œuvre à Lyon. Il faut attendre un moment pour que la machine chauffe. Donc 5 minutes de pause, si vous voulez. Donc, quelques mots au sujet de l'opéra. Je commencerai par la pièce de Tchekhov. Vous savez que le texte est retravaillé, le livret et d'autres, bien sûr, que le texte de Tchekhov. L'œuvre de Tchekhov a été publiée en 92, est en 4 actes, et le tout a lieu en une période de 4 ans. Je vais vous parler du texte original pour que vous voyez les différences. Dans le texte de Tchekhov, l'acte 1, c'est l'anniversaire d'Irina. Les trois sœurs rêvent de retourner à la capitale où elles vivaient avant. Parmi les invités, il y a le lieutenant-colonel Vershinin qui attire beaucoup Masha. Irina est l'un des lieutenants allemands, le baron Tusenbach, qui ont des projets ensemble. L'acte 2, soirée ratée. Masha et Vershinin se plaignent de leur femme et mari. Vershinin est obligé de partir. Tusenbach et Zolioni s'efforcent d'obtenir les faveurs d'Irina. Natacha, la femme d'Andrei, part avec son amant, Protopopov. Acte 3, l'incendie qui a balayer la ville. Le Tchiboutikin, le médecin ivre, casse l'horloge de la famille. Masha et Irina se plaignent. Elles ont perdu leur maison à Moscou et leur amour avec Vershinin ne fonctionne plus. Irina décide d'épouser Tusenbach à condition qu'il l'emmène à Moscou. Acte 4, Tusenbach est tué par son rival Solioni. Natacha a pris la maison. Les trois sœurs restent prises dans leur piège de province et essayent de se résigner. Je pense que vous connaissez l'œuvre, c'est pour ça que je n'ai pas beaucoup expliqué de choses. Alors, le livret est écrit par Hennenberg et Peter Tusch. Le matériau a été réorganisé en 3 grandes séquences et un prologue. C'est là le changement principal par rapport à l'œuvre originale. Alors je cite Oetvesh. Dans son premier livret, Henneberg a simplement coupé dans le texte. Je lui ai dit que ça ne marcherait pas pour moi, parce que c'était simplement une réduction du texte qui avait vraiment l'impression d'être une liste, mais ça ne marchait pas pour un opéra. Puis en utilisant mon expérience avec le film, j'ai commencé à travailler sur ma propre version. J'entends la musique avant même de savoir où je vais l'utiliser. Vous entendez dans votre oreille intérieure, puis vous recherchez l'objet, le texte ou la situation qui peut au mieux fonctionner avec ce son. En d'autres termes, le sens dérive de la musique. Fin de la citation. Et c'est comme ça qu'un nouveau livre tout à fait surprenant a été créé par Oetvesh et Henneberg. Oetvesh lui-même donne des explications sur le texte qui va avec le CD. Il parle de la situation en triangle de l'opéra.
Can you just lighten it? I have made just a little
Alors, j'ai fait un tout petit dessin
of the
pour symboliser la situation.
Okay. This is the
voilà.
Very abstract construction.
C'est vraiment un résumé très abstrait.
Unlike Chekhov's play, my opera Three Sisters is divided not into four acts, but into three sequences. I tell the story three times, on each occasion with a different character as the focus of attention. In this way, the same scene is re-examined from different points of view. Chekhov's story has no real hero, but is a network of human encounters, all of them couched in language of great sensitivity and dealing with relationships involving three people. As an example, we may single out three romantic attachments. Central to the first sequence is the character of Irina. She vacillates on a conscious and emotional level between her fiancé Tusenbach and his friend, the soldier Salioni. Irina's sense of duty binds her to Tusenbach, but her unconscious affection for Salioni finds expression both in silence and in outbursts of hysterical anger.
Transforme une pièce indépendante et une nouvelle œuvre musicale et dramatique. Avec la libération de la chronologie, le contenu de la pièce peut passer à un état sans temps, avec une validité sans temps, et se concentre sur les processus de l'âme. La tâche exige des moments fondamentaux. On ne raconte pas l'histoire une chose après l'autre. Dans l'œuvre, les sentiments et les tensions des gens sont soulignés. Leur capacité et incapacité de communication, le vide de l'existence humaine sans espoir. La délicatesse, la vulnérabilité des émotions et des rapports personnels. L'état fondamental des trois sœurs et de leur frère André est présenté dans chaque séquence. Tout le monde est pris sans espoir dans la pensée du passé. Ils rêvent de l'avenir en perdant tout ce qui reste du présent qui s'est arrêté complètement. Il n'y a plus de possibilité de changement. Utvush montre le matériau textuel et les événements trois fois en nous montrant la tragédie des protagonistes, en les interprétant à travers les perspectives différentes de différents personnages. Encore plus avec cette technique, Utvush se concentre sur ces événements et sentiments et les condense.
It's just a drawing of the triangle situation. It's the same. Irina,
donc, Irina, Andrei et Masha.
Down is Natasha, the wife of Andrei.
Natasha, la femme d'Andrei.
And it's a three conflict situation.
Et on voit les situations de conflit. Masha qui hésite entre Vershinin et Kolygin. Puis l'autre entre Dusenberg et Solioni, Andrei entre ses sœurs et Natasha. Voilà encore la description de Peter Utvush des différents individus.
The second sequence is devoted to Andrei, who is the younger brother of the three sisters. He's a long-suffering character, unsuccessful in his profession and unsuccessful in his choice of partner. It is Natasha who finally marries him, but she's the black sheep of his family and of the bourgeois society in which they find themselves, primitive and aggressive. Her power over Andrei and his sisters is like a weed that finally chokes all other emotions. Everyone apart from Andrei knows that Natasha has been sleeping with his superior. Yet Andrei still loves Natasha in his hopelessly naive way and defends this love.
Я люблю Наташу, но иногда она кажется удивительно вульгарной.
и тогда я не понимаю, почему я так ее любил когда-то.
The third sequence belongs to Masha. Her husband Kuligin is the very embodiment of bourgeois self-confidence and tedium. Masha was forced to marry him while still very young and would like to break free from this false and mendacious situation. Her hopes are pinned on Vershinin, the officer from Moscow. With him she longs to discover a new world and find true love. In successive scenes, her husband Kuligin and then Vershinin, the officer whom she loves, think of their love for her. But although Vershinin does so to the same melody as Kuligin, Masha feels moved only by the officer's declaration of love. Let us hear Kuligin, then Vershinin.
Моя хорошая, славная, чудная.
So in every sequence and in a series of
donc,
events, the triangle
séquence,
plays the main
il y a
role
ce conflit triangulaire entre Irina, Andrei et Masha,
here
avec leurs triangles respectifs. Et puis il y a encore des triangles,
there,
si on regarde Vershinin, qui est entre Masha et Solioni, et Natasha, qui n'a pas décidé si elle choisissait Andrei ou son amant Protopopov. Dans chacune des trois séquences, il y a des événements qui ont lieu, l'incendie, l'arrivée, le départ de l'armée, des querelles, le médecin ivre, le départ de Vershinin, la mort de Tuzenbach, etc. À propos, je m'excuse, mais j'entends pas assez bien le CD pour pouvoir interpréter, hein, c'est complètement embrouillé. Alors, trois plans pour les séquences
qui démontrent les différentes parties within
qui montre les différents événements de chaque séquence. Dans la première séquence, il y a les trois sœurs au salon, et puis dans le jardin, Natasha apparaît, puis de nouveau les trois sœurs, la troisième scène, Natasha, 4 et 5.
You can see by the red
vous voyez le cercle rouge.
Scene 6 and 7.
puis 6 et 7, scène d'amour, avec Tuzenbach et Solione, 8, c'est Natacha, 9 à 12,
Garden,
au jardin,
four farewells,
les 4 adieux, les 2 soldats, puis Tuzenbach,
and scene 12,
et puis à la 12e scène, le coup tiré contre Tuzenbach à la fin.
It's André, between his wife Natasha,
André,
and sisters,
qui est pris entre sa femme Natacha et les 3 sœurs.
Scene numbers
pour les scènes 13 à 18,
scene,
on est au jardin,
21,
de 19
salon,
à 21 au salon.
Scene 13, salon,
13 c'est le salon Natasha, les 3 sœurs, 14 c'est Natacha.
André, in the love puis, scene to Natasha.
Ensuite, la scène Natasha d'amour entre André et Natacha, scene, puis Natacha, l'incendie. 19, on a André et le docteur au jardin. 20, et 20, André. Et puis Natacha,
next.
André et le.
From scene 22, again,
scène 22, le salon de nouveau,
scene Kuligin, scene
puis
24,
Kuligin, scene puis Virginie, en scène d'amour, hein, puis aussi Virginie, Masha, puis les 3 sœurs et Masha,
last,
et enfin le jardin et l'adieu des 3 sœurs.
The three sequences have
les
3
séquences
the first sequence is
sont organisées de la
the
façon suivante. La première séquence, 12 scènes, la deuxième, 9 scènes, la troisième, 5.
Which is just a small
c'est en fait une petite réduction
line, 12 to 9 to 6,
avec une,
une
réduction à partir de ce qui serait logique, c'est-à-dire 12, 9, 6. Mais ça serait trop évident, donc 5 laisse les choses ouvertes et indéfinies. Puis il y a 3 processus d'une déconstruction. Dans la première séquence, la chronologie est désintégrée, le temps est étiré des numéros 2 à 5, avec un montage du texte sans qu'on reconnaisse vraiment l'histoire, et des pauses chronologiques. Dans la deuxième séquence, synchronisation et arrêt complet du temps au numéro 18. Un petit ensemble de 2 minutes, un madrigal en quelque sorte, où des petits éléments du texte, des actes 2 et 3 du texte de Tchekhov, qui sont tout à fait sortis de leur contexte et remis ensemble comme un collage. Tout le monde parle de sa propre histoire, chacun parle seul, sans concentré sur lui-même, c'est un bavardage qui n'a pas de sens, pas de communication avec les autres. C'est un vrai madrigal. Et vous savez que à Lyon, c'était bien le numéro 18 qui était le madrigal.
Referring that it's very late, I just
donc comme il est très tard,
and I think
je vais
then,
peut-être
just only talk about the,
laisser tomber une partie
set,
de ce que je voulais dire. Et puis je voudrais juste vous parler un peu des décors, les décors de Fushio Amagatsu qui sont vraiment très intéressants.
Need it anymore. You can see, it's hard to see it well
vous,
on the wall there.
Vous voyez
you can see
là,
these sketches by
ces esquisses
Fujio Amagatsu
de Fushio Amagatsu.
For the set design, who was also the producer of the production.
C'était lui le metteur en scène, mais c'était ses esquisses pour les décors. Alors, je cite Théotvush, il ne connaissait pas du tout la pièce. Je lui ai dit que toute la pièce était formée de triangles et que ce triangle devait être présenté d'une certaine façon. Alors, il n'a pas construit des triangles, mais il les a laissés naître de deux rectangles qui était déplacé.
You see it then later on the cassette.
Plus tard sur la cassette, vous verrez ces décors. Les lignes qu'on voit là
and give the
sont
different situations.
Des murs qui bougent, qui sont ouverts, fermés, etc. Alors, il y a un rectangle qui ressemble beaucoup à une scène de No. Et en dessous, déformé, il y a un autre rectangle. Et ils forment finalement quatre triangles. Les figures en triangle peuvent être bougées. Ce sont des panneaux qui bougent. Amagatsu tire tout le décor de ces formes fondamentales. Et le noyau de l'œuvre, c'est le triangle. Le conflit de l'éternel triangle. Et je cite encore Hötvösch, c'est parfaitement clair. Alors, on va maintenant passer le film sur le travail, sur la pièce.
Never been seen on television, this film.
Ça n'a jamais été montré à la télévision. Donc c'est vraiment une chance de pouvoir le voir ici. Ça n'a jamais été émis. C'est un documentaire de 30 minutes sur les répétitions et la production de Lyon.